Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kero.
Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
Ah, Jean-Christophe Drouet est en vacances, je préfère le préciser.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
François Pinet.
C'est mieux, merci beaucoup.
Mieux.
Et on embrasse Jean-Christophe Drouet. Mais oui, mais on a un égo dans cette dans cette rédaction.
On a beaucoup d'égo dans cette émission.
Hein, c'est vrai, c'est vrai.
Depuis que t'es là, Fred, beaucoup plus
d'égo. Effectivement.
Mais t'aimerais qu'on t'appelle Richard Dacoury, Frédéric?
Pas du tout, absolument pas.
Alors voilà, c'est pour ça. Non, mais on embrasse Jean-Christophe Drouet, c'est un honneur d'être appelé comme lui. Bref, de retour dans les grandes gueules du sport, il est 10h06, on est ravis de vous retrouver ce matin. Vous le savez, c'est votre rendez-vous du week-end de 9h à midi, le samedi et le dimanche, et même pendant les vacances avec les GG du jour. Donc, Marie Martineau. Non, c'est Marion Bartoli.
Non,
puisqu'on change les noms, allons-y.
Quel rigolo celui-là.
Richard Dourte est avec nous et Frédéric Weiss, vous l'avez entendu. Si vous avez raté la première heure, le podcast des GG est déjà disponible pour écouter notamment le débat sur l'OM de Tudor, le nouvel ami de Marion Bartoli. Dans 30 minutes, l'invité des GG est un ancien cycliste. C'est Théo Nonez qui n'a que 22 ans et pourtant il a arrêté sa toute jeune carrière à cause d'un burn-out. Il viendra témoigner dans les GG. Et puis à 11h, les GG passent la seconde avec un sujet pour Richard, bien évidemment, le rugby, l'équipe des All Blacks qui n'en finit plus de décevoir. Nouvelle défaite hier contre l'Afrique du Sud, la série noire qui se poursuit. Est-ce que les All Blacks sont devenus une équipe banale? On en débat avec nos GG dans une heure. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire au 32-16 pour réagir à ce que dit une GG ce matin. C'est la séquence Les GG et vous. On vous donne la parole à 11h45, 32-16 ouvert dès maintenant, bien sûr, si vous voulez nous rejoindre. Le hashtag RMC Live sur Twitter et l'appli RMC Direct Studio pour vos messages. Joel Embiid est une star du basket. Il évolue en NBA aux Sixers de Philadelphie et le pivot jouera peut-être les Jeux Olympiques 2024 avec la France. Le Camerounais a été naturalisé français récemment et Vincent Collet a été très clair sur le sujet cette semaine. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Ma position, quand il va l'être complètement sélectionnable, à la fois pour des raisons de papier, mais aussi des raisons d'état physique, je ne vois pas pourquoi je ne le sélectionnerais pas. On a toujours, autant se faire que peu, pris les meilleurs joueurs. Donc je considère qu'à partir du moment où il est sélectionnable, il fait partie de cette catégorie-là. Donc voilà quelle est ma position.
Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus cette semaine, suite à cette question sur Joël Embiid, on précise que le joueur n'a jamais vécu en France. Il a des amis et de la famille sur le sol français. Et lui-même le dit, il parle français, c'est sûr. Et son film préféré, c'est Taxi 4. Pour autant, ses liens avec la France sont quand même assez minces. Alors, cette question.
Ils sont un peu minces aussi.
C'est vrai. Cette question, pas sur Taxi 4, musique qui fait peur. Joël Embiid, bientôt sélectionné avec les Bleus. Est-ce que ça vous choque, oui ou non, les GG? Richard Dourte.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Marion Bartoli.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Frédéric Weiss.
Oui.
Ah, Frédéric, qui va entrer dans l'arène. Avant de vous donner la parole et de donner la parole à Fred Weiss, avant de répondre à cette question, on accueille un spécialiste de basket dans la rédaction RMC, Geoffrey Charpie. Salut Geoffrey.
Bonjour François, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Salut Geoffrey.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous. D'abord cette question, évidemment, comment les joueurs français prennent-ils la future arrivée d'Embiid en équipe de France? Comment c'est perçu?
Alors il faut rappeler que les premières rumeurs d'une potentielle naturalisation de Joël Embiid, elles remontent à 2018. Et à l'époque, sur Twitter, Evan Fournier, le nouveau capitaine des Bleus, il n'avait pas caché son agacement, je le cite, « Arrêtons avec les articles sur Joel Embiid, ça en devient ridicule. » Depuis, le pivot des Sixers a obtenu sa naturalisation le 5 juillet dernier et il a lancé la procédure qui devrait lui permettre prochainement de porter le maillot de l'équipe nationale. Longtemps opposé à sa venue pour des raisons éthiques, Evan Fournier semble plus modéré actuellement comme il l'a récemment confié au micro d'Arnaud Valadon.
Enfin, vous regardez toutes les équipes comme moi, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez l'Espagne avec Lorenzo Brown qui doit même passer à dire bonjour en espagnol. C'est quelque chose qui est très compliqué, je trouve, parce qu'il y a tellement de facteurs pour être contre, pour être pour. Quand ce sera l'heure, on se parlera tous et puis on prendra tous une décision. Joël, il a une très bonne démarche pour l'instant. On verra comment ça va se passer.
Alors, pourquoi un tel changement de discours? C'est tout simplement pour un duo, ou plutôt une association, une raquette qui ferait rêver nombre de sélectionneurs. Une association entre Joel Embiid et Rudy Gobert. Le nouveau pivot de Minnesota ne gâche pas son admiration pour le natif de Yaoundé. Même Mustapha Fall, et il est très lucide à ce sujet, lui qui pourrait faire les frais d'une arrivée de Joel Embiid en équipe nationale. Écoutez les deux joueurs.
C'est un joueur incroyable. Après, il y a plein de choses auxquelles on doit réfléchir. C'est un joueur unique. On a une équipe qui est déjà bien soudée, un groupe qui vit bien ensemble aussi. Donc, faut voir comment ça pourrait fonctionner pour le groupe.
S'il est là, c'est sûr qu'il faut le prendre. C'est un joueur qui peut être MVP en NBA tous les jours. Donc, c'est sûr que le voir avec Rudy Gobert, ça peut vraiment être quelque chose de grand. C'est sûr que je suis concerné. Mais maintenant, niveau éthique, comme il a dit, ça peut poser problème parce qu'on fait jamais ça. De l'autre côté, les règles sont les règles. Donc, on joue selon les règles.
Opéré du plancher orbital cet été, Joël Embiid devrait donc postuler pour une place au sein de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2023 et surtout pour son objectif qu'il a clamé haut et clair, ce sont les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Merci beaucoup Geoffrey, tu restes avec nous pour ce débat. Je rappelle la question, les GG, Joël Embiid bientôt sélectionné avec les Bleus, est-ce que ça vous choque? Avant de donner la parole à Fred qui est un spécialiste bien sûr et qui est le seul à avoir dit oui, j'ai entendu le gros nom de Richard Dourte. Richard?
Non, parce que
il est
franco-camerounais, ça me choque pas. Et nous, dans le rugby, enfin, dans les sports, enfin, le rugby, un sport collectif connu, il y a beaucoup de nations qui ont des joueurs d'origine étrangère, mais qui ont une grand-mère ou un père d'origine du pays pour lequel ils jouent. Et il y a des exemples en France. Paul Willemse est d'origine sud-africaine. Winnie Antonio, il est pas d'origine française, mais il a été naturalisé. Il y en a plein comme ça. Donc, à partir du moment où Joël Embiid, il est en plus, lui, franco-camerounais, c'est quand même un joueur...
Il est devenu franco-camerounais par sa naturalisation cette semaine.
Il est camerounais, hein.
Il est camerounais, mais il est devenu franco-camerounais.
Tu dis qu'à partir du moment où il est franco-camerounais,
il a fait le dispositif et tout. Il a pris toutes les dispositions pour devenir français. Moi, ça me choque pas. Si on peut avoir encore des joueurs de ce talent qui veulent jouer pour l'équipe de France, alors c'est plus embêtant pour ceux qui sont à sa place, et notamment Fall. Mais bon. Moi, ça me choque pas, et c'est parce que dans le rugby, c'est assez fréquent. On a des Écossais d'origine néo-zélandaise, on a des All Blacks d'origine tongienne ou samoane ou fidjienne, on a des Anglais d'origine sud-africaine qui jouent pour l'Angleterre. Enfin voilà. Donc
le rugby n'est peut-être pas le basket, j'ai envie de te dire. C'est peut-être pas la même chose.
C'est pas le même ballon.
C'est un sport collectif.
Oui. Déjà.
C'est peut-être pas un sport de combat collectif, le basket, mais c'est un sport collectif et c'est un sport mondialement connu, le basket. C'est joué dans pas mal de pays. Donc voilà, moi ça me choque pas.
Alors Marion, t'es sur la même ligne que Richard?
Mais totalement. En plus, comme l'a dit très bien Evan Fournier dans son interview, d'autres le font. Alors l'Espagne, effectivement, avec Lorenzo Brown, mais la Macédoine l'avait fait précédemment pour l'Euro 2011 avec Bo McCaleb, pardon. Sur la Slovénie, avec l'Américain Anthony Randolph. Je veux dire, pourquoi on serait tout le temps les derniers d'un nom de la farce alors
que les autres
le
font? Evan Fournier précise qu'en Espagne, certains ne disent même pas, ne savent même pas dire bonjour en espagnol. Hein.
Voilà, alors que lui parle très bien français. Et encore une fois, s'il n'avait pas du tout d'attache en France, de toute façon, le gouvernement français ne n'aurait pas octroyé la nationalité française. Donc c'est bien qu'il a une capacité à prouver qu'il avait des attaches en France et que donc on peut lui offrir la nationalité française. Donc à partir du moment où il a la nationalité française, que c'est un joueur qui est exceptionnel, il est meilleur marqueur de la saison régulière en NBA devant LeBron, pourquoi s'en priver? Je n'arrive pas à comprendre. Alors les questions d'éthique, si tout le monde effectivement était sur on va dire les mêmes règles et que personne le faisait, qu'on soit les seuls à faire une espèce de tour de passe-passe pour pouvoir l'avoir, oui, tu peux te poser une question d'éthique, mais à partir du moment où plein d'autres équipes l'ont fait, comme le dit Richard, dans d'autres sports, ça se fait aussi, je vois pas pourquoi on serait les derniers toujours à se dire, ah ben non, mais non, on a trop d'éthique, non, on veut pas le faire. Voilà, c'est un joueur exceptionnel, on peut s'en servir pour l'équipe de France, il peut apporter énormément, il peut faire gagner des grandes compétitions, donc j'ai du mal à comprendre la position de Fred, mais j'ai hâte de l'écouter.
10h14 sur RMC, la voici la position de Fred sur donc ce débat autour de Joël Embiid en équipe de France. Star NBA, certes, camerounais, naturalisé, fraîchement français, qui donc pourrait jouer les Jeux Olympiques 2024. Oui, à entendre Vincent Collet.
Il pourrait apparemment, oui, effectivement. Ouais. Donc je vais te faire une réponse en deux temps. Le premier temps, je vais parler de la formation française et du signal envoyé à cette formation française. Effectivement, on peut pas comparer le rugby et le basket. C'est vrai que ça se fait très couramment en rugby, ça se fait très peu au basket, et à chaque fois les équipes sont pointées du doigt. Quand on parle de la Slovénie, c'est un pays qui est minuscule, et alors c'est pas qu'on le comprenne, mais c'est vrai que leur vivier de joueurs est très faible, donc ça paraît assez logique. Mais quand l'Espagne a naturalisé un joueur, bah tout le monde a mis un peu un veto et n'était pas content. Donc je vais juste revenir à la formation française. Elle est reconnue dans le monde entier. On est un des contingents de joueurs NBA les plus importants, d'accord. On a des joueurs qui jouent en Euroleague, donc on a des joueurs de très au niveau. Alors oui, pas au niveau de Joel Embiid, mais des joueurs de très haut niveau. On risque d'avoir le numéro 1 de la draft qui s'appelle Victor Wembanyama, qui devrait être numéro 1 de la draft, ce qui quand même veut dire quelque chose aussi. Donc ça veut dire qu'on travaille bien en France. Ça veut dire que nos joueurs montrent dans le monde entier qu'ils sont performants. C'est quoi le symbole que tu leur envoies? C'est quoi le signal que tu leur dis? Tu leur dis, ok, vous êtes bons, mais bon, il y a des mecs qui sont meilleurs ailleurs, on va les prendre, c'est ça? Honnêtement, j'ai du mal à positionner par rapport à ça. On parle de Mousfal, très bon joueur qui nous a beaucoup aidé, qui nous a vraiment sorti de beaucoup de problèmes au dernier JO, qui ne sera peut-être plus là, qui sera remplacé.
C'est lui qui paierait l'arrivée d'Amid.
Entre autres, mais je pense à Mam Jaïté, qui est un très bon joueur, MVP de l'Eurocoupe. Il y a quelques années, si on avait eu un MVP de l'Eurocoupe en équipe de France, il aurait joué. Là, on n'est même pas sûr, déjà, avec le contingent actuel, qu'il fasse partie de l'équipe. Ensuite, je pense à Vincent Poirier, qui est fantastique au Real, qui a fait un passage au Celtics, et qui malheureusement, peut-être, fera les frais aussi de cette arrivée. Donc, j'ai du mal à comprendre de ce point de vue-là. Et là, c'est François le Français, c'est comme ça qu'on m'appelle, qui est en train de parler. Et donc, comme tu as dit au départ, je vais
très bien. Le Français, là.
Donc, le deuxième temps, c'est, si, avec Joël Embiid, la France remporte une médaille d'or, je serai le premier à danser nu dans toutes les fontaines de Paris, tellement je serai ravi.
Attention.
Je n'ai pas terminé. Donc je sais que ça va motiver personne que je danse nu. Donc, je vais danser avec le maillot.
C'est dans la boîte, ça.
Avec le maillot de Joël Embiid.
Mais le maillot taille enfant.
Taille enfant, exactement. Comme dans l'air à Malibu à l'époque, c'était vraiment le truc bien serré. Donc, ça pour dire que, effectivement, d'un côté, je suis tiraillé. Donc j'ai répondu oui pour justement être en contradiction avec mes deux collègues, mais je suis tiraillé parce que d'un côté, ce que je t'ai expliqué, je le pense vraiment.
Ah bah si tu le penses vraiment, peu importe si on peut gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques.
Mais de l'autre côté, battre les Américains, gagner à Paris la médaille d'or des Jeux Olympiques, mais je suis le mec le plus heureux de la Terre, je te dis. J'ai vraiment envie de danser nu. Alors, à ce point.
Et on a beaucoup plus de chance avec Embiid.
Quand tu as un joueur de ce calibre-là qui est, si ce n'est pas le meilleur pivot, c'est le deuxième meilleur pivot du monde, que tu pourrais associer avec Rudy Gobert, qui est un des meilleurs défenseurs de NBA, et je me dis, mais les gars, c'est nous les favoris d'un seul coup. Et donc forcément, me fait pencher un peu la balance de ce côté-là. Voilà, je suis très tiraillé, c'est une question qui est très difficile, je pense qu'elle doit se régler en interne, et finalement, même pas, c'est le sélectionneur qui doit prendre
le sélectionneur, on l'a entendu, Vincent Collet, qui est
à partir de ce moment-là,
priori,
moi je ne peux que respecter
Fred,
son
on
choix.
On a eu ce même débat en rugby en 2003 en Coupe du Monde, et d'ailleurs moi je sais pas si j'en ai fait les prêts, mais j'ai pas fait la Coupe du Monde. Il y a Tony Marsh qui est arrivé, il y a Brian Liebenberg qui était à mon poste, qui ont joué, qui étaient des très bons joueurs, et moi j'ai pas été sélectionné, mais bon, on n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais c'est la loi du sport, donc peut-être que
t'avais
c'est quelque chose qu'il faut
mais sur le
faire
coup,
rentrer
sur le coup t'étais aussi philosophe. Objectivement.
Non.
Tu te trouves philosophe, toi, Richard?
Mais moi, je pense à ces joueurs qui dans leur tête se disent, attends,
mais
on prend un mec qui n'est pas français au départ, qui est naturalisé.
Plus,
bien
ils étaient,
sûr.
Ils étaient même pas naturalisés. Après, moi, je suis comme ça, on l'accepte. Et moi, ça a été à mes dépens. C'est les deux jouaient à mon poste, au trois quarts centre. Donc, bien sûr que le joueur, il a les boules, mais voilà, l'équipe de
France. Il voulait vraiment te remplacer,
Il
t'avait ciblé, là. Il se disait, faut enlever Richard, c'est pas possible.
Ouais. Peut-être que j'étais plus nul que les autres aussi. Non, mais.
Je te comprends, Richard, tout à fait. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est moins dans les mœurs en France. On a fait des naturalisations. On a des naturalisés, mais elles avaient un lien avec la France, les naturalisés qu'on a en filles. Et d'un seul coup, quelqu'un qui vient de je ne sais où. Alors je sais où, mais je m'entends.
Mais oui, avec des liens très forts. Il a juste de la famille et des amis en France.
Et en plus, il a des goûts.
Après, il parle français.
En film catastrophique. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis pas sûr qu'il faille le.
Après,
le
Fred,
alors, tout le monde sait que Taxi 2, c'est bien meilleur que le 4, quoi.
Le 1, le 1.
Exactement. Enfin, nous, on a hâte d'être le soir de la finale des JO. Et de voir Fred nous faire sa parade.
Oui, ça c'est vrai. Attention,
pour toi, j'aurai aussi des
réseaux sociaux tous inondés de Fred Weiss avec le maillot taille enfant de Joël Embiid dans toutes les fontaines.
Je sais pas si ça pourra passer sur les réseaux sociaux, ça sera peut-être censuré quand même.
Par les grands téléphones.
Non, c'est pas ce que je voulais dire, Richard.
Ah bon, d'accord. Non, mais il a raison, Richard, je suis d'accord avec lui.
N'importe quoi. Il est 10h20 quand même, les amis, attention. Juste quand même pour recentrer le débat, et là c'est une vraie question que je vous pose à vous, Marion, Richard, vous avez dit non, ça ne me choque pas du tout. Au Cameroun, ça choque. Et je voulais vous quand même vous citer le sélectionneur du Cameroun, Sacha Guifa, qui s'est exprimé en juillet 2022, c'était avant la naturalisation d'Embiid,
qui est français d'ailleurs,
hein, et qui explique qu'est-ce que ça inspire que Embiid puisse jouer avec l'équipe de France. Ben, avec tout ce qu'on voit en ce moment avec le basket africain, on ne doit pas perdre nos pépites, elles doivent rester sur le continent et faire briller le basket africain. Voilà, donc il y a aussi ça dans la réflexion, et on se dit, voilà, c'est encore le Cameroun, une équipe africaine en l'occurrence, qui est victime de ce phénomène de naturalisation.
Oui, mais on a l'impression que c'est l'opportunité qui provoque ça, et il sait, Joël Embiid, qu'avec le Cameroun, même si c'est une très bonne équipe, ils n'ont pas le potentiel de gagner les Jeux Olympiques. Donc,
non, mais pas de gagner, mais au moins de grandir.
Bien sûr, mais lui, il veut un titre.
Mais moi, je respecte le choix à la limite du joueur. Mais on peut comprendre que naturaliser un joueur et le piquer à une autre sélection, ça puisse choquer.
Ah bah on peut comprendre que les sélections ne sont pas contents,
oui,
ça c'est certain.
Comme ça va gêner le joueur qui va prendre la place. Hein. Exactement pareil.
Donc c'est pour ça que je suis mitigé, parce qu'il y a forcément des gens mécontents dans cette histoire.
Exactement, mais bon, on est obligé de. Et tu l'as dit, Fred. On est obligé de reconnaître que c'est quand même un grand joueur, quoi.
Un joueur exceptionnel, je suis d'accord avec moi. Donc c'est plus
il a pas mal de blessures quand même, mais bon, il faut qu'il s'y fasse. Il a eu pas mal de blessures, mais c'est quand même le meilleur marqueur.
J'aurais voulu avoir autant de blessures et être aussi fort que lui. Quand même.
Moi, je n'ai pas été le meilleur marqueur d'NBA.
Depuis 2014, il n'a jamais fait une saison sans blessure. Il a été blessé au genou, au tibia, à la cheville. Là, il s'est fait opérer du plancher orbital.
D'ailleurs, on rappelle que s'il participe pas à l'Euro, c'est aussi pour ça.
Totalement. Ouais. Parce qu'il s'est fait opérer. Vincent Collet l'a rappelé en conférence de presse. Il aurait été potentiellement sélectionnable dans le groupe, voire même sélectionné. Mais à cause de cette opération, il peut pas prétendre à disputer l'Euro cette année.
Alors, on a entendu Geoffrey qui nous a fait écouter justement l'évolution un petit peu des avis des joueurs de l'équipe de France. Après, il faut quand même s'intégrer dans cette équipe de France, Fred.
C'est un joueur intelligent. Alors là, j'ai aucun doute. C'est plutôt on parlait de Pogba tout à l'heure. C'est un joueur qui est un peu de ce style. Hein. C'est un trash talker. C'est quelqu'un qui est exubérant, qui aime rire. Donc, je pense qu'il va assez rapidement s'intégrer. Mais c'est au niveau des systèmes en place. C'est sûr que c'est plus compliqué de jouer avec deux big men parce qu'on est obligé de les faire jouer quasiment ensemble.
Ah ouais,
donc ça, c'est quand même plus compliqué à mettre en place au départ.
Mais après, d'un point de vue purement basket,
c'est chaud.
Fred, toi qui es dans ces hautes sphères, d'avoir les deux dans la raquette, ça va être énorme quand même.
Moi, tu sais, je suis un ancien et je jouerai une vieille zone 3-2 où je mettrai les deux dans la raquette. Et je peux te dire que quand on pourrait dans la raquette.
Et les mecs, il va falloir qu'ils shootent extérieur. Dis,
voilà, c'est ça. Ça va shooter extérieur et ça va espérer de prendre des rebonds longs de temps en temps.
Et c'est ça, oui. Non, mais on est d'accord, Fred.
Ah oui, non, mais c'est fantastique. Non, mais encore une fois, sur le papier, c'est fantastique. C'est juste. Voilà, ça me dérange un petit peu avec le vivier qu'on a.
J'aimerais bien qu'on termine ce débat avec Richard, comme d'habitude. Etché nous dit sur l'appli RMC Direct Studio, à la différence d'Embiid, les joueurs naturalisés au rugby dont tu parlais, ça faisait des années qu'ils jouaient en France. Il y avait une règle comme ça aussi quand même, il fallait jouer en France.
Trois ans dans le territoire, ça
aurait eu de sélection. Il y a quand même une différence. Il y a quand même une grosse différence.
Embiid, il va préférer jouer en NBA plutôt que de jouer sur le championnat français.
Merci Marion de critiquer le championnat français, ça me fait beaucoup de peine.
Non, mais on critique pas, mais.
Non, mais bon, voilà. Quand même.
Par exemple, Scott Speeding, quand il est arrivé d'Afrique du Sud.
Qui
personne ne le connaissait. Scott Speeding, qui fait la Coupe du Monde en 2015, il joue à l'arrière de Clermont. Il était d'origine sud-africaine. J'avais jamais joué en France et il a joué 2 ans en France à Clermont. Il était éligible à la sélection. Il a été sélectionné parce que c'était un bon joueur. C'est la règle du rugby, quoi. Et c'est comme ça. Peut-être que la règle du basket, elle est différente, mais je crois pas. Donc c'est vrai que c'est choquant. C'est vrai que c'est pas un bon signe pour la formation française. Mais regardez, à l'époque, c'est peut-être aussi parce que la formation française n'était pas à la hauteur. qu'on a pris des joueurs. Là, en ce moment, la formation française, quand même, on a été la génération des Dupont, des Ntamack, etc. On a été deux fois d'affilée, deux années consécutivement,
champion du monde junior,
champion du monde moins de 20. Ouais. Et puis, les joueurs français, maintenant, ce sont les meilleurs, quoi.
Ouais.
Donc c'est peut-être parce qu'il y a, alors je parle pas de basket, mais c'est peut-être à l'époque au rugby il y avait la formation qui était pas, oui, il y avait pas une bonne génération qu'on s'est retourné vers des joueurs d'origine étrangère.
Ouais, mais pour revenir au basket, c'est pas le cas en fait. Ouais.
Et voilà, c'est ça.
On a une bonne génération et c'est là que ça me dérange plus. Tu vois, on aurait un manque réel à ce poste, je dirais fonçons, évidemment, tous les renforts sont bons à prendre et on serait la Slovénie et Mike Toby me dirait, je viens, je le prends sans aucun problème. Mais là, on n'est pas sur les mêmes bases, on est sur une équipe de France qui travaille dur, qui a plus besoin de naturaliser depuis quelques temps, qui a une vraie alchimie dans le groupe. Voilà, ça
me dérange. Je suis d'accord avec toi que le basket français a une super formation, qu'on travaille fort, mais est-ce que c'est pas peut-être cet élément-là qui va nous permettre de plus être vice-champion?
Et oui.
C'est ça le truc.
Si on est champion olympique,
je vois monde aussi, mais il y a vice dedans, il y a pas champion.
Si on est champion olympique, on aura la chance de voir Fred Weiss,
dans les fontaines de Paris. Voilà. Ça c'est
la chance ou pas. Merci en tout cas Geoffrey.
Merci.
Tu peux rentrer chez toi ou presque, parce que visiblement des petits soucis.
Il y a un serrurier à Boulogne-Billancourt qui peut se rendre disponible à midi et quart. Je suis preneur. Si quelqu'un a une radio au sein des RMC, je suis preneur.
Très bien. Bon écoute, Geoffrey, de toute façon tu vas rester en régie avec nous. Absolument. Pour continuer à guider les GG qui continuent dans un instant avec l'invité des GG, Théo Nonez, qui était cycliste professionnel jusqu'à un burn-out et il a tout plaqué l'an dernier alors qu'il n'avait que 21 ans et beaucoup beaucoup d'espoir était placé en lui. Il a accepté l'invitation des GG pour raconter son histoire. Il sera avec nous dans un tout petit instant. Restez avec nous sur RMC.
François de France, c'est comme ça qu'on m'appelle.
Oui, pardon.
Je suis la France.
France.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
François Pinet.
Il est 10h31, ravi de vous retrouver pour les GG du sport, c'est jusqu'à midi, c'est tous les week-ends, en direct bien sûr sur RMC, avec nos GG du jour en pleine forme ce matin, Marion Bartoli, Richard Dourte et Frédéric Weiss, et dans 15 minutes, un nouveau zapping, bien évidemment, la deuxième salve de On s'en fout. On s'en fout pas, on parlera notamment d'Alexander Zverev qui a révélé être diabétique. Et on parlera d'apnée aussi, tiens, puisqu'on a des champions français d'apnée en ce moment, ça cartonne. On verra si ça vous intéresse ou pas, les GG. Mais d'abord, c'est l'heure de l'invité des GG. Théo Nonez a arrêté sa jeune carrière à 21 ans suite à un burn-out et il a accepté l'invitation des GG. Il est en direct ce matin avec nous. Bonjour Théo.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous pour nous raconter ton histoire. Tu as aujourd'hui 22 ans. Tu as commencé le vélo autour de l'âge de 13 ans après 8 ans de foot. Et tu es même devenu champion de France junior de vélo en 2016. Et tu as intégré le groupe professionnel en 2019 à 19 ans chez Groupama. Et tu es à l'époque le plus jeune coureur de l'effectif. À ce moment-là, tu as un grand espoir du vélo. J'ai même vu une vidéo d'un reportage où tu fais la reconnaissance de la planche des belles filles. Et tu dis à la caméra, j'espère un jour être aligné sur le Tour de France. Donc à ce moment-là, il y a vraiment beaucoup d'espoir placé en toi. Et pourtant, deux ans après, tu décides de tout arrêter. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ?
Alors en fait, j'ai été, un peu pris dans l'engrenage du sport de haut niveau. Donc au début, c'est assez compliqué à expliquer, mais en fait, je pratiquais un métier pour lequel j'aurais pu faire la même chose sans être payé en fait. Quand je suis passé chez les pros, c'était vraiment me lever tous les matins était un plaisir, aller m'entraîner, c'était vraiment vraiment super. Je roulais avec du super matériel, etc. Et au fur et à mesure, en fait, les contraintes se sont alourdies, l'investissement a grandi, etc., au niveau de l'entraînement, de la récupération, tout ça. Et je me suis retrouvé à le vivre de moins en moins bien, jusqu'au jour où j'ai eu le déclic, en fait, que j'étais plus heureux, je m'étais coupé toute ma vie sociale, etc., et j'y trouvais plus mon bonheur, en fait.
Et tu peux nous raconter, justement, cette journée où tu parles de déclic ?
Je pense que c'est quelque chose qui est monté progressivement petit à petit.
Ouais.
Et c'est le 23 décembre 2020 où, en fait, la veille du réveillon, du coup, je vais m'entraîner. Une grosse séance d'entraînement ce jour-là m'attendait. J'étais tout seul, il pleuvait comme assez souvent à cette période-là. Et en fait, au bout de 30 minutes de vélo, j'avais peut-être 4 heures d'entraînement avec des intensités, un test 4 minutes à fond, etc. Et en fait, au bout d'une heure de vélo, je me suis retrouvé tout seul en pleine campagne sur mon vélo, à pleurer sur mon vélo en me demandant ce que je foutais là, en fait.
Mmh. Et comment, Et la suite, comment justement ça a été pris, ça a été compris? Je crois savoir que ton papa était fan de vélo.
Ouais, bah ça a été très dur pour moi de l'accepter déjà moi-même, mais ensuite d'en parler, c'était peut-être pas le plus dur, mais ça a été compliqué d'accepter l'avis de mes proches, etc. Parce que voilà, c'était une décision quand même assez importante et les avis étaient mitigés. Donc avec mes proches, ça a été un petit peu compliqué, notamment que j'avais pas forcément de plan B à l'instant T. En fait, je me suis rendu compte que j'étais malheureux à faire cette activité, ce métier, que je pouvais pas continuer comme ça. Mais j'avais pas forcément de porte de sortie. Du coup, ça a été beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Et j'ai quand même été très bien entouré avec mon équipe qui m'a laissé le temps de prendre du recul et prendre ma décision sereinement. Et puis mes proches qui ont été là pour moi malgré tout.
Théo Nonez, qui est en direct avec nous, ancien cycliste, on dit ancien alors que tu n'as que 22 ans, mais c'est le cas, ancien cycliste, qui a tout arrêté l'année dernière. Marion Bartoli est avec nous, Théo, pour te poser une question.
Oui, bonjour Théo. Bonjour. Tout d'abord, merci d'intervenir aujourd'hui. C'est pas forcément un sujet facile et d'autant plus... ton histoire vraiment m'a beaucoup touchée. Moi, ce que j'ai pu lire, en fait, c'est que tu t'as ressenti au moment de le dire et de l'annoncer un petit peu à ta famille, pas mal de pression parce que t'avais l'impression un petit peu d'être redevable envers eux. Ils avaient beaucoup investi en termes de temps pour toi, pour ta carrière dans le vélo, et t'avais une espèce d'obligation de performer. En fait, tu en as un petit peu parlé à l'instant, mais est-ce que tu crois que finalement, tu prends cette décision quand même avec une arrière-pensée en disant mince, je laisse un petit peu tomber ma famille par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour moi, ou tu sens quand même que c'était vraiment le moment où il fallait que ça sorte et tu juste arrivais plus parce qu'il y avait trop de contraintes et trop de difficultés, que tu avais l'impression vraiment de manger, boire et dormir vélo et qu'il n'y avait plus rien d'autre dans ta vie?
Bah déjà, merci pour ces mots, ça me touche. Ensuite, exactement, en fait, c'était très compliqué à vivre et à accepter le fait que... Bah, tout l'investissement que j'avais pu mettre, que mes proches avaient pu mettre, notamment mes parents, que ce soit financier ou en termes de temps, ils sont beaucoup venus me voir sur les courses. Aussi, les personnes qui me suivaient, etc., je me sentais redevable et je leur devais quelque chose. On m'a beaucoup répété que j'avais été courageux de prendre cette décision, etc., mais en fait, je pense que j'avais plus le choix. J'étais arrivé à un point de non-retour où j'avais plus beaucoup de solutions. C'était soit j'arrêtais, soit en fait, c'était pas viable de continuer comme ça. J'avais vraiment plus le choix et... la plupart de mes proches ont compris. Pour certains, ça a été plus compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, je vais mieux. Et je pense que c'est le plus important. C'est notamment un suivi psychologique avec mon ancien psy, du coup, Jean-Luc Tournier, à qui je vais faire un gros bisou, qui m'avait énormément aidé à ce moment-là, en posant... j'aime bien l'expression. Il posait des mots sur mes mots, en fait. Ça a ordonné les choses dans ma tête. Et j'ai pu plus aisément en parler autour de moi et exprimer un peu mon mal-être.
Et c'est sans doute effectivement, Théo, important d'en parler parce que c'est encore un tabou, notamment dans le monde du sport. Fred Weiss, toi, ce n'est pas un secret, tu es passé par là, par la dépression.
Bien sûr.
Tu l'as raconté, oui. Notamment dans un livre, Jusque-là, ça va, ta biographie, tu le racontes. Donc j'imagine que ce que dit Théo, ça résonne évidemment chez toi.
Mais ça résonne, mais ce qui me surprend, bonjour Théo déjà, et effectivement merci d'être là parce que c'est jamais facile d'en parler comme ça. Moi, ce qui me surprend vraiment, c'est le début de ton explication, c'est de dire... Ce que je faisais avant, qui me plaisait, j'étais content d'y aller, etc. Du jour au lendemain, entre guillemets, je suis devenu pro, et d'un seul coup, c'est devenu une contrainte. Et j'ai l'impression que j'ai vécu exactement la même chose, en fait. J'ai l'impression que les sportifs, en général, on vit ça au départ. Après, certains passent outre, ou par quelque manière que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est un peu logique, en fait. Le fait d'être dans quelque chose qu'on aime, de le faire, et d'être heureux de le faire, et d'un seul coup, de se retrouver à être payé pour le faire, en fait. Chez moi, ça a beaucoup changé. Et je me pose la question, tu prends toujours du plaisir à faire du vélo maintenant que tu n'es plus payé pour, entre guillemets?
Honnêtement, je pense que j'ai peut-être poussé le bouchon un petit peu trop loin. Et j'ai besoin de temps pour faire le deuil un peu de ma pratique cycliste. Et je suis remonté sur le vélo qu'une ou deux fois, mon vélo d'entraînement du moins. Je fais du vélo tous les jours, c'est vrai.
C'est
pas exactement pareil. Ouais,
c'est un peu plus pour se balader. Oui,
mais tu veux rester quand même dans ce milieu. Enfin, j'ai lu aussi que tu avais l'intention de rester dans ce milieu, mais c'est pas un milieu qui te fait peur quand même un peu?
En fait, j'ai le sentiment de devoir m'en détacher au moins à court et moyen terme.
D'accord.
Après, je reste un passionné de sport et bien entendu un passionné de vélo, malgré le fait que la pratique, voilà, m'attire moins ces derniers temps. Et voilà, je suis fermé à aucune opportunité, ça ne me dérogerait pas forcément. Même si pour l'instant, j'ai quand même besoin de voir autre chose. Et voilà, j'ai vécu avec des œillères pendant quelques années. Mmh. Et là, j'ai l'impression de redécouvrir la vie, donc peut-être pas tout de suite.
C'est aussi effectivement, il n'a que 22 ans, tu n'as que 22 ans Théo, donc forcément il y a peut-être des gens aussi qui ont besoin de profiter de cette jeunesse. Il y a tellement maintenant des jeunes qu'on met comme ça sur le devant de la scène, il y avait sans doute beaucoup d'attentes autour de toi, donc forcément ça a créé tout ça. Théo Nonnez, je rappelle, en direct avec nous à 19h40 dans les GG, qui a donc arrêté le cyclisme l'année dernière à 21 ans et qui vient courageusement parler, parce que c'est un peu tabou, de ce burn-out qui lui a fait tout arrêter d'un coup. Richard Dourte est avec nous également, Théo. Richard.
Bonjour Théo, et bravo d'être là déjà. Merci. Bravo d'être là et d'être là où tu en es. Et moi j'ai juste une question, c'est derrière toi tout ça, j'espère. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'avenir? Tu as repris tes études, tu fais une formation, t'as quoi comme projet?
Exactement, j'ai repris mes études en septembre.
Donc tu vis ta vie d'étudiant quoi maintenant.
C'est ça, en fait c'est le retour à la vie d'étudiant. C'est pas simple non plus, je dois reconnaître. Après quasiment 3 ans de pause où j'avais vraiment sacrifié mon cursus scolaire pour mon activité professionnelle, du coup. Et c'est une super expérience. Le retour sur les bancs de l'école et en même temps en alternance dans une super boîte. Donc ça se passe vraiment bien. L'avenir, il n'est pas totalement tracé. Je sais pas encore où je mets les pieds, mais voilà, je me fais des expériences et j'espère que petit à petit, je pourrai trouver ma voie et m'épanouir enfin.
Et t'as aucun regret de ta vie d'avant? Parfois
non,
tu en as, ça peut t'arriver.
Honnêtement, je pense pas qu'on puisse qualifier ça de regret. J'ai encore des amis à moi qui sont encore dans les rangs professionnels, certains que j'ai été voir sur les routes du Tour de France le mois passé. Et j'ai un peu l'impression de vivre par procuration ce qu'ils vivent, les encourager, etc. Mais dans un autre sens, je sais ce qu'ils vivent, je sais ce qu'ils endurent toute l'année et honnêtement, c'est pas forcément mon objectif de vie. Sinon, j'en serais pas là d'ailleurs.
Marion.
Oui, moi, j'ai lu bien sûr tes déclarations. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ta réflexion, c'est finalement de se dire aussi qu'il y a peut-être une manière d'adapter un petit peu les méthodes d'entraînement. Alors peut-être que ça convient effectivement à des pocachars et autres de se mettre comme ça, la tête, alors pour pas faire un mauvais jeu de mots, mais la tête dans le guidon dès l'âge de 17 ans et de penser qu'à ça toute la journée. Mais peut-être aussi qu'il y aurait pour d'autres jeunes comme toi qui avaient le potentiel et la capacité, mais d'adapter un tout petit peu, de leur laisser peut-être un tout petit peu plus de temps pour respirer, pour faire des choses alors qui paraissent banales mais importantes pour toi. J'ai lu que t'aimais aller au musée, aller sur des expositions, te promener dans Paris, voilà, mais que malheureusement si tu faisais ça, les 2 heures de marche, t'allais les payer le lendemain à l'entraînement. Mais peut-être que ta manière de te développer et d'aimer ce que tu fais passait par là aussi, et je trouve un petit peu décevant que finalement dans ton sport on reste sur une espèce de seule marche et unique manière de s'entraîner, et que si tu n'arrives pas à rentrer dans ce moule-là, c'est pas fait pour toi. Je pense que peut-être à long terme il y aurait une réflexion à avoir, alors tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi, mais pour pas mettre des jeunes comme toi directement sur le côté de la route juste parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à ces méthodes-là.
Pour être honnête, c'est également pour ça que j'ai souhaité prendre la parole à l'occasion de mon arrêt. J'avais aussi le choix de ne pas forcément développer le pourquoi du comment, mais j'ai vraiment voulu partager mon message, pas me positionner en lanceur d'alerte, mais j'ai envie que ma petite expérience puisse servir peut-être à d'autres jeunes qui pouvaient se retrouver dans ma situation, et dire, en fait, je me dis que un an plus tôt, si j'avais pu lire un récit d'une expérience telle que la mienne, du coup, j'aurais peut-être pu essayer de trouver des solutions, des aménagements justement de l'entraînement ou de ma vie en général, qui auraient fait que je n'aurais peut-être pas atteint ce point de non-retour où vraiment je ne pouvais plus supporter cette activité. Quoi. Mmh. Et c'est vraiment l'objectif que j'ai en parlant, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de venir discuter avec vous ce matin.
Merci, hein. Merci, on te remercie évidemment Théo Nonnez. Une dernière question de Fred Weiss pour toi Théo.
Justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que si tu avais pu lire le récit de ça ou de quelqu'un qui a vécu ça, ça aurait pu t'aider. Est-ce que tu as pensé à coucher sur papier un peu ce que tu as vécu ou pas du tout?
C'est l'une des premières choses que ma mère m'a dit, que je devrais en faire un livre. Pour être honnête, je suis pas très à l'aise avec ça. En fait, j'ai pas envie d'être réduit à l'image de Théo Nonez, celui qui avait fait un burn-out à 21 ans au terme de sa carrière cycliste.
Non, Théo qui a aidé plein de personnes à éviter exactement. C'est parler pour les autres, quoi.
C'est un exemple pour les autres. Pas celui qui a arrêté.
Exactement.
Théo qui permettrait aux autres de passer cette étape que toi t'as pas pu passer.
Exactement. Richard, je suis d'accord avec toi.
Ça me touche beaucoup ce que vous me dites là. Honnêtement, peut-être que j'étais pas assez mature. Là, maintenant, ça fait un an et demi. J'essaye aussi de tourner la page et d'avancer aussi de mon côté, peut-être un peu égoïstement. Mais ça reste un sujet qui me tient très à cœur. Et bah, écoutez, pourquoi pas dans les années à venir. Je sais pas ce que l'avenir me réserve.
En tous les cas, moi, je sais que c'est un livre que je lirai avec un grand plaisir parce que c'est quelque chose d'hyper intéressant.
Ah, toi, tu peux le dire, ça t'a fait du bien aussi.
Moi, ça a été une thérapie. Dans mon cas de figure, ça a vraiment été une thérapie parce que j'ai vécu des choses différentes de toi, mais aussi dans la dépression.
Ouais,
et honnêtement, je pense que c'est hyper important de partager ce message.
Il n'y a pas de honte de faire un burn-out.
Ouais,
il faut pas être que ne sois pas bien ne te dis pas que t'es catalogué au jeune de 21 ans qui a fait un burn-out. Non, que tu vas être catalogué à celui qui va permettre aux autres de plus le faire.
Et surtout quel courage d'en parler. Exactement,
ouais.
Marion.
Ouais.
Je suis d'accord.
Parce que c'est encore tabou, on l'a dit, hein, c'est pas toujours évident et surtout à ton âge, Théo. En tout cas, merci beaucoup Théo d'être passé dans les GG.
Merci à vous.
Merci Théo.
On suivra la suite de tes aventures et profite. On a envie de te dire profite. Merci beaucoup Théo en tout cas. Merci encore Théo Nonez.
Passez une bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Qui était à l'invité des GG. Les GG qui continuent dans un instant avec le retour du zapping, le on s'en fout pas, avec notamment Alexander Zverev, le tennisman qui révèle son diabète. Tiens, on va vous demander si ça vous intéresse dans un instant à vous les GG. Restez bien avec nous sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
François Pinet.
Il est 10h49, les GG du sport, c'est jusqu'à midi avec nos GG du jour, Marion Bartoli, Richard Daud, Frédéric Weiss. Et à partir de 11h, les GG qui passent la seconde, cette question, les All Blacks sont-ils devenus une équipe banale, même de poser la question, ça fait froid dans le dos. Ils vont tomber au 5e rang mondial, le pire classement de leur histoire après leur défaite hier face à l'Afrique du Sud. On en parle avec nos GG qui vont devoir prendre position. Mais en attendant, le zapping, deuxième version. Le zapping fait son retour. On s'en fout, on s'en fout pas.
Le zapping des GG, le retour.
Avant de parler d'Alexander Zverev, on va parler d'un Français champion du monde d'apnée. On s'en fout ou on s'en fout pas, Richard Dourt?
On s'en fout pas.
On s'en fout pas. Frédéric Weiss. Ah, vas-y, dis-le.
Pas.
Ah, il ose pas.
Non, parce que l'apnée, je connais l'apnée du sommeil déjà, donc c'est pas mal.
c'est un vrai problème, l'apnée du sommeil. Mais t'as le droit de dire, on s'en fout, hein, c'est le principe. Hein.
Non. Français, champion du monde.
T'es obligé.
Mario Bartoli, on s'en fout.
Sur la même longueur
on s'en fout
d'onde,
pas. Pareil. Tu t'en fous pas non plus. Il s'appelle Gérald. Il a 26 ans. Il a plongé vendredi dernier jusqu'à 119 mètres. Record absolu des deux fédés d'apnée. Oui, parce qu'il y a deux fédérations importantes. En poids constant bipalme, donc voilà, il a deux palmes. Plongée qui a duré, tenez-vous bien.
C'est pour l'explication du bipalme, personne n'avait compris.
Je préfère être précis, c'est une émission, il faut être précis. Plongée qui a duré, écoutez bien, 3 minutes et 29 secondes au total. Donc n'essayez surtout pas ça chez vous, bien évidemment. C'était lors du Vertical Blue, c'est la plus célèbre compétition d'apnée.
Tu as 119 mètres de dénivelé?
Non, mais tu peux essayer d'être en apnée pour 3 minutes.
Voilà, c'est ça que je voulais dire, bien évidemment. J'ai pas une baignoire qui fait 119 mètres. Merci Marion, c'est vrai, t'as raison, tu me sauves la mise là. C'était aux Bahamas. Et d'ailleurs, il y a chez les femmes une autre Française, Alice Modolo, qui a battu le record du monde avec 96 mètres descendus. Là encore, le chiffre fait peur, 3 minutes et 6 secondes. Alors pourquoi on s'en fout pas, Richard? T'as dit non, on s'en fout pas?
Non, parce que moi j'avais eu la chance de rencontrer le regretté Loïc Leferme, qui était à l'époque un des meilleurs apnéistes mondiaux, qui est décédé il y a 15 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et nous avait expliqué que tout son entraînement, tout ça, et ce sont des personnes, mais c'est génial ce qu'ils font, ils arrivent à maîtriser tous leurs signes vitaux pour ralentir la consommation d'oxygène quand ils plongent. C'est quelque chose de phénoménal à entendre. Ils arrivent à maîtriser le battement du cœur pour c'est topissime. Mais quand ouais, c'est ça, c'est le grand bleu, quoi. Franchement, le respect pour ces gens-là, c'est je crois que l'océan pour eux, c'est comme une drogue en fait. Ils ont besoin d'être dans l'eau et ils nous racontaient que lors des entraînements,
en statique dans une piscine et faisait 5-6 minutes d'apnée. c'est quelque chose que je peux pas. Au bout d'une minute, je commence à être violé, moi. Donc, non, on s'en fout pas et on peut pas s'en foutre quand on est un Français champion du monde.
Et c'est bien d'en parler. Normal. Marion, c'est bien d'en parler aussi. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup de l'apnée. Hein. Pourtant, on a des performances.
Non, absolument. Hein. Et puis, moi, je suis admirative de choses que je serais toujours incapable de faire. Ça, c'est bien le cas. Parce que, alors, déjà que j'ai le mal de mer, donc déjà me foutre en mer, c'est pas la peine. Et je suis incapable de retenir ma respiration. Je suis complètement nulle là-dessus. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui arrivent à faire cela. Et comme disait Richard, en fait, cette espèce de contrôle de soi, quoi qu'il arrive, même dans des conditions les plus difficiles, c'est ça qui est totalement admirable. Donc, j'étais contente que tu me relates cette information.
Ah ben, je suis là pour ça, Marion. Hein, on m'a demandé de choisir des informations qui te font plaisir. C'est dans le contrat. Fred Weiss.
Non, je respecte beaucoup les apnéistes et j'ai mon fils qui s'appelle Enzo à cause du Grand Bleu. Donc voilà, ça me paraissait.
Bien sûr.
Entre, pas que, mais aussi pour ça. Donc Enzo, bien sûr.
Mais oui. Joué par Jean Reno.
Oui, je crois, oui. Qui demande à un moment Roberto mio palmo.
C'est un film incroyable d'ailleurs,
un
le Grand Bleu,
4,
si vous ne l'avez pas vu, oui, 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 ouais. C'est vrai. Si vous n'avez pas vu le Grand Bleu, pourtant c'est le même réalisateur.
Oui, bah c'est pour ça.
et si vous n'avez pas vu le Grand Bleu, effectivement avec Jean-Marc Barr et Jean Reno qui joue Enzo Molinari dans le film, voilà.
Exactement.
C'est le personnage qui est joué par Jean Reno. Allez, une autre info, les GG. On va parler tennis maintenant avec le joueur Alexander Zverev qui révèle être diabétique. Est-ce qu'on s'en fout ou est-ce qu'on s'en fout pas? Ben, on va commencer par Marion.
Non, je m'en fous pas.
Évidemment. Frédéric Weiss.
Désolé, je m'en fous.
Il s'en fout. C'est bien, c'est courageux. Richard Dourt.
Non, je m'en fous pas.
Tu t'en fous pas. L'Allemand Zverev qui a lancé sa fondation pour aider les personnes atteintes de diabète. Il en a profité pour révéler qu'il était lui-même atteint de cette maladie, diagnostiqué chez lui à l'âge de 3 ans. Et il veut montrer que même en étant diabétique, on peut aller loin, on peut faire du sport de haut niveau. Et sa fondation permettra notamment d'acheter de l'insuline et d'autres médicaments qui sont vitaux pour les diabétiques. On s'en fout pas, Marion.
Bah, et non, c'est comme ça, plus, moi, je passe pour un salaud.
Un méchant.
Ouais. Eh oui, mais non, mais en fait, moi, je pensais juste que tu l'annonçais, c'est tout. C'est pas exactement.
Merci beaucoup.
T'as pas le droit de parler, Fred. Ouais,
voilà. Je parle plus.
T'as dit que tu t'en foutais, voilà, c'est trop tard.
Très déçu de la façon dont tu me l'as lancé.
Vas-y, Marion.
Non, mais effectivement, ça montre qu'on peut malheureusement avoir cette maladie et faire du sport de très très haut niveau, parce que Zverev, c'est quand même un athlète assez exceptionnel sur le terrain. Donc, c'est bien pour lui qu'il soit à nouveau capable d'en parler. Je trouve qu'on est quand même maintenant dans une nouvelle génération où les jeunes n'ont pas peur d'exprimer leurs difficultés. On a entendu Théo tout à l'heure, là, c'est sur autre chose, mais voilà, de se dire qu'ils ont eu des problèmes et qu'ils sont capables de les surmonter. Et c'est, il peut aider d'autres enfants, bien sûr, via sa fondation et les moyens financiers qu'il va y mettre, non seulement à traiter leurs problèmes, mais aussi à leur faire du sport, ça sera super.
Richard, le mot d'affaire avec toi.
Tout à fait d'accord. Et bon, pour les personnes qui le savent, je pense que vous ne savez pas. Moi, j'étais asthmatique quand j'étais jeune, et c'est le sport qui m'a aidé. Donc, le sport aide beaucoup. On peut, même si on a quelques maladies comme ça, eh bien, on peut faire du sport. Moi, j'ai un ami qui a été professionnel de rugby avec moi, qui est diabétique et qui se contrôle via une application qu'il a sur son téléphone, savoir s'il est en hypo ou en hyperglycémie. Il est obligé de se contrôler, mais ça l'empêche pas de vivre.
Et mais c'est très lourd. C'est très très lourd, effectivement. Effectivement, tout ce que les diabétiques doivent faire.
Il faut juste contrôler, quoi. Ouais. C'est juste ça. Donc, Zverev, c'est pas n'importe qui. C'est un sportif de très, très haut niveau. S'il est diabétique depuis l'âge de 3 ans et qu'il fait du sport de haut niveau, voilà, c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on ne peut pas faire de sport ou autre chose.
Et bien voilà, le mot de la fin avec Richard Dourte qui en ce moment enchaîne les phrases fortes comme ça, des GG incroyables de Richard Dourte hein, ce matin. Dans un instant, on revient bien sûr avec les GG et avec cette question, les All Blacks sont-ils devenus une équipe banale, les GG qui passent la seconde parce que les All Blacks ont perdu hier contre l'Afrique du Sud. Il va falloir trancher les GG, y compris toi Marion. On en parle dans un instant sur RMC, restez bien avec nous.
Je suis chef de guerre, moi. Je suis pas là pour secouer les drapeaux, jouer de la trompette.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.